Se termine en ce moment l'édition 2024 de la grande fête de la création, le South by Southwest à Austin, au Texas. Et encore cette année, on a beaucoup parlé de création numérique et vous vous en doutez bien, l'intelligence artificielle a une place de choix. Il y a l'experte en chef de l'intelligence artificielle à Radio-Canada, Chloé Sandervost, qui a suivi le sujet de très près, vous l'imaginez, et on va aller la rejoindre à l'instant pour revenir sur les faits saillants de l'intelligence artificielle dans le contexte du South by Southwest. Bonjour Chloé.
Bonjour Bruno.
Chloé, cette semaine, on a beaucoup parlé, particulièrement sur les réseaux sociaux, pas dans les médias traditionnels, de South by Southwest. Et cette année, on peut dire que, peut-être même plus que l'an dernier, l'intelligence artificielle a pris sa place, là.
Mais je trouve ça intéressant que tu fasses cette observation-là, parce que évidemment, un festival comme celui-là, c'est qui met de l'avant l'innovation, oui, dans l'industrie culturelle, mais l'innovation technologique aussi. L'intelligence artificielle fait partie des conversations depuis des années, dans la programmation officielle, dans les conversations qui émergent à toute heure du jour ou de la nuit, l'IA est dans l'air. Cette année, effectivement, ça a pris une place un peu particulière. Bon, alors d'un côté, il y a les nouveautés, j'ai envie de dire, un peu habituelles. On a parlé d'ordinateur.
C'est rendu habituel.
Okay. C'est toujours étonnant et passionnant, on s'entend. Mais c'est la palette très large. Les ordinateurs propulsés par l'intelligence artificielle. L'IA pour améliorer le sommeil. L'IA pour faire des plans de maison. L'IA pour cartographier des ondes cérébrales. C'est toutes des choses qu'on a entendues. Mais ce qui est peut-être différent cette année, c'est que l'impact de la technologie devient plus concret. Peut-être comme s'il y avait une maturité dans le milieu culturel, justement, que là, on commence à toucher vraiment de près ces conséquences aussi pour toutes les personnes qui sont impliquées. Et je trouve que Alexandre Teodorosco, donc, qui est vice-président développement stratégique et innovation pour le collectif d'art de la scène Les Sept Doigts, a bien résumé ça hein, dans son justement compte-rendu de l'événement. Il disait, bon, mais bien sûr que le sujet cette année à South by Southwest, c'est l'impact de l'IA générative sur les industries créatives. Est-ce qu'on exagère? Absolument. Est-ce que ça va changer le monde? Absolument. Donc, il y a comme ces deux facettes.
C'est bien résumé, ouais.
Je trouve aussi, oui, puis cette espèce de mélange d'enthousiasme et de crainte qu'on voit, qui je trouve a été bien incarné dans un projet, t'en as peut-être entendu parler, ça s'appelle Bear Wars, la guerre des ours, oui, c'est pas la guerre des tucs. Une série animée donc qui nous présente des ours en peluche qui sont eux-mêmes animés par l'IA qui se font la guerre dans le futur. Cette série elle a été réalisée avec des outils d'intelligence artificielle, on en entend souvent parler, Midjourney, Stable Diffusion. Le premier épisode, l'équipe nous dit qu'il a été fait en 3 semaines. Avec une petite équipe, donc beaucoup moins que ce qui est habituellement nécessaire.
Ben ouais.
Et ça, évidemment,
et c'est le premier épisode.
Ça amène des questions. Et c'est juste le premier épisode, voilà.
Puis par la suite, quand on se lance dans un deuxième, c'est beaucoup moins de temps parce que toute la recherche a été faite pour le premier épisode.
Tout à fait. Puis ça a été présenté samedi dernier. Ça faisait ça le comble. Donc, je crois qu'il y a une curiosité aussi autour de, justement, on parlait de l'aspect concret. Quand on utilise ces outils, qu'est-ce que ça donne? Quel est le potentiel, mais quels sont les problèmes aussi qui peuvent arriver?
Puis d'autant plus que dans le contexte où tout le monde a été oublié par Sora, Midjourney avait quelque chose à prouver, hein? Alors, je pense que ça a fait plaisir à l'éditeur du logiciel.
Probablement. Puis ce qu'on voit souvent, c'est des cocktails créatifs. C'est-à-dire que tu commences avec Midjourney, tu rajoutes un autre outil, puis tu développes comme ça un flux de production qui te permet d'avoir une création original en bout de course. Je sais que le mot original peut susciter la controverse ici, mais il peut y avoir une démarche créative qui s'approprie ces outils-là.
Ça sera la démarche qui est originale.
Exactement, ouais.
Et non pas la fin. Est-ce qu'il y a autre chose qui a attiré ton attention au niveau de l'IA dans l'événement?
Ben, écoute, dans ce qui a fait réagir, tu parlais des réactions sur les médias sociaux, il y a eu une couverture aussi dans certains médias d'information. Une nouvelle, c'était le lancement de cette espèce de clone de Marilyn Monroe. Donc, il y a une compagnie
petit malaise,
qui, oui, même gros malaise. Alors, on reprend les choses dans l'ordre. Donc, une compagnie, finalement, a obtenu les droits d'exploitation de l'image de Marilyn Monroe. Ils se sont associés à Soul Machine, donc qui sont des spécialistes de la création d'avatars. Donc, en fait, ce qu'ils proposent, c'est de rendre disponible cette espèce, je souligne, espèce de double numérique de Marilyn. Donc, le public peut interagir un peu comme avec un chatbot bonifié, avoir des questions, des réponses personnalisées. Ça a été lancé le 8 mars. Journée internationale des droits des femmes, ça soulève des questions du point de vue des artistes, du consentement, l'impact aussi sur la main-d'œuvre. Donc, ça a été plus ou moins bien reçu. Et on voit à travers tout ça les discussions aussi sur la grève des acteurs aux États-Unis qui pourrait revenir, toujours en lien avec l'intelligence artificielle. Puis je trouve que la critique de l'IA, je l'ai sentie assez présente justement dans la couverture de l'événement.
Mais je suis content que tu mentionnes cette question de double numérique de Marilyn Monroe, ouais, parce que ça soulève exactement les craintes des acteurs et les raisons pour lesquelles ils ont été dans la rue. Parce que ce qu'ils ont fait avec Marilyn Monroe, ils peuvent le faire avec n'importe qui de leur vivant maintenant, avec les technologies qui sont présentes. La qualité de la pellicule aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué que de prendre des bons vieux films avec des photos et d'arriver à retravailler l'image. Là, avec la qualité 8K dans laquelle ils sont en train de tourner, là, c'est la cristallisation de toutes leurs craintes dans ce double-là.
Tout à fait, puis on en a parlé ensemble hein, plus tôt cette année. Tu sais, il y a une entente qui a été signée pour cette utilisation, par exemple, des voix clonées pour les studios de création de jeux vidéo, les médias interactifs aussi. Mais l'éventail d'utilisation possible, il est très, très large. Et donc, effectivement, ça ramène ces discussions-là aussi pour les gens qui gagnent leur vie, justement, avec leur performance.
Ouais. Qu'est-ce que ça dit, toi, de savoir qu'on a beaucoup critiqué l'utilisation de l'IA dans le contexte de la création?
Ça montre qu'il y a une division à l'intérieur de la communauté artistique elle-même. Il y a des craintes par rapport à l'impact sur les emplois. C'est souvent à ça qu'on revient en premier. Des questions plus fondamentales aussi sur est-ce que c'est de l'art ou pas. Et puis à travers ça, des pratiques qui émergent, des gens qui essayent, puis qui disent aussi c'est justement le propre, c'est un peu le super pouvoir des artistes d'essayer de briser les frontières. Donc peut-être qu'on devrait voir comment on peut séparer les deux problèmes. Est-ce qu'on peut trouver un contexte d'utilisation qui fait en sorte que on rémunère de façon appropriée, par exemple, les personnes qui produisent du matériau de base qui sert à alimenter ces machines, par exemple. C'est un des enjeux qui est abordé, donc de baliser un petit peu pour qu'on puisse prendre soin de l'écosystème artistique, hein, qu'on vienne pas tuer non plus dans l'œuf des talents, mais que de l'autre côté aussi, on crée un espace qui permet d'essayer, d'explorer, et peut-être que l'un va dans l'autre aussi, peut-être que les modèles juridiques sont à inventer en utilisant la créativité aussi à ce niveau-là.
Bon, c'est sur cette question-là qu'on va arrêter ce survol de l'IA à 100% ouest. Hein? Mais écoute, je ne peux pas t'avoir et pas te poser la question. J'ai entendu dans les branches que tu es en train de travailler sur une émission spéciale à la radio de Radio-Canada sur l'IA. Qu'est-ce que c'est exactement cette affaire-là?
Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, avec grand plaisir. Okay. Et t'as bien entendu à travers les branches, effectivement. On vient d'en parler. T'sais, l'impact de ces technologies-là, l'impact social humain, il existe. Et donc, ce qu'on veut faire, justement, c'est ouvrir une conversation avec le public, avec les francophones partout au pays, pour déjà, dans un premier temps, voir quelles sont les questions qui préoccupent les gens, les craintes, mais les espoirs aussi, les utilisations qui sont déjà faites. Donc, dans un premier temps, en fait, on ouvre une page pour inviter les gens à commenter, à avoir cet échange. C'est super facile. Hein, c'est radiocanada.ca/IA.
On ne pouvait pas trouver. On risque pas de se perdre. Hein?
Bon, okay. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que déjà maintenant, on voit dans les commentaires les questions. Donc, par exemple, beaucoup de questions autour de l'éducation. Puis, tu sais, si on revient à South by Southwest, on a appris, il y avait le responsable de ChatGPT pour OpenAI qui était sur place. Bon, on a appris qu'il s'engageait à toujours laisser une version gratuite, accessible de ChatGPT.
C'est Elon Musk qui va être content.
Mais moi, j'ai envie de savoir comment les gens dans le milieu de l'éducation réagissent aussi. Parce qu'encore là, il peut y avoir des utilisations bénéfiques, mais d'autres qui sont plus problématiques. Donc, premier ensemble de questions. Des questions aussi, justement, les contenus générés par l'IA, à qui ils appartiennent, si on revient aux artistes, l'impact sur l'environnement, des gens qui sont plus positifs, plus enthousiastes aussi. Donc, tu vois, ça prend beaucoup de directions. Et je trouve que nourrir notre esprit critique autour de ces questions-là et le faire ensemble, pour moi, c'est quelque chose qui est important en ce moment, parce que l'avenir n'est pas écrit. Oui, on voit des développements technologiques, mais il ne faut pas croire que c'est déjà dessiné d'avance. Au contraire, on a un pouvoir. Et donc, en parler, y réfléchir ensemble, je crois que c'est essentiel. C'est ce qu'on veut essayer de faire avec ce projet-là.
Alors là, t'es dans le démarrage du projet. Est-ce qu'il y a, ouais, y a déjà une date annoncée de diffusion?
Ça va être au printemps.
Okay.
Et ce qu'on prépare, c'est vraiment une partie rencontre, je te dirais, sur le terrain. Là, moi, je sors dans la rue avec mon micro.
Ouais, mais est-ce que tu sais bien faire aussi, ouais.
Mais je trouve que c'est important, tu vois, de justement sortir du studio, aller à la rencontre, aller là où l'action se passe. Et il va y avoir une partie, justement, encore la conversation avec le public. On veut inviter les gens à venir nous voir et à poser eux-mêmes des questions aussi, de se donner le temps de faire ça.
Bon, mais c'est sûr qu'on aura l'occasion d'en parler et tu pourras nous annoncer la date de diffusion officielle. Chloé, c'est toujours un plaisir de t'accueillir dans mon carnet. Merci pour tout ce savoir que tu as et cette analyse et aux critiques et aussi en jouer à l'occasion, Delia, que tu partages avec nous. Je rappelle que, je vais le dire comme ça, tu es la spécialiste de l'IA Radio-Canada. Chloé Sandervoss, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci et à bientôt.
Écoute, merci à toi, Bruno, une humble contributrice parmi beaucoup de personnes, mais c'est vraiment un privilège de pouvoir en parler avec toi puis de poursuivre l'échange avec toutes les personnes qui t'écoutent aussi. Merci beaucoup.
Salut, à bientôt. Bye.